Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, BFM Crypto, le club.
Comme chaque jour, aux alentours de 16h30-35, votre club BFM Crypto, on va regarder quel potentiel, quel avenir attend ce nouveau marché qui tente d'émerger, le marché des cryptos. Un coup d'œil en direct au Bitcoin. Vous savez, hein, sur le front des cours, eh ben on a du mal à s'extirper de la zone autour des 20 000 dollars. On est toujours en train de rôder autour des 20 000. On est à 19 369 aujourd'hui sur l'Ether. 1046 dollars. Quel potentiel pour la suite? Quel regard porter sur le développement de ce marché? Lilian Aliaga vient nous rejoindre. Bonjour Lilian.
Bonjour Guillaume.
Rédacteur pour Cryptost. Yves Chouefati nous accompagne également, le président de Tobam. Bonjour Yves.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue à tous les deux sur notre plateau. Alors c'est un jour intéressant parce qu'on a des chiffres d'inflation encore records aux États-Unis. Les prix à la consommation largement supérieurs aux attentes. 9,1%, c'est la hausse des prix à la consommation sur un an aux États-Unis. On attend une action encore forte des banques centrales. On a la Banque du Canada qui tout à l'heure a annoncé une hausse de son principal taux. Pas de 75 points de base, ce qui est déjà beaucoup, mais 100 points de base. On va voir ce que fera la Fed à la fin du mois de juillet. Yves, alors on va profiter de votre présence pour en parler, rebondir sur cette actualité inflation et banque centrale. Est-ce que le Bitcoin, les cryptos, mais le Bitcoin en particulier, garde des chances de prouver qu'en période d'inflation durable, il est une solution?
Ah oui, effectivement, c'est paradoxal parce que la promesse du Bitcoin, c'est d'être un refuge contre l'inflation. Et là, on l'a, l'inflation, et Bitcoin baisse. Comment ça se fait? En fait, le Bitcoin ne réagit pas en ce moment à l'inflation, il réagit à des anticipations de lutte contre l'inflation. Ce qui se passe, c'est pas simplement que l'inflation est élevée, le marché réagit à des anticipations. L'inflation élevée d'aujourd'hui, c'est pas une anticipation, c'est un fait. Okay. En réaction à cette importante inflation, la Fed a décidé de remonter ses taux. Elle est en train de dire, en fait, vous avez plus besoin de prendre des risques pour gagner de l'argent. On va rémunérer de l'argent sans risque. C'est ça la hausse des taux de la Fed. Et ça induit un mouvement généralisé sur le marché qu'on appelle le de-risking, du fait que tout le monde est en train de vendre les actifs risqués pour aller se faire rémunérer au jour le jour sans prendre de risque. Et c'est ça qui explique en fait la baisse de tous les marchés risqués, que les marchés risqués soient les marchés obligataires. Le marché obligataire est en très très forte chute depuis le début de l'année. Le marché actions, et évidemment le marché de la crypto qui, étant plus risqué, est encore plus fortement frappé par ce mouvement qui est complètement généralisé. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas un phénomène crypto, c'est un phénomène de de-risking.
Et donc, pour l'instant, le Bitcoin ne parvient pas à montrer qu'il est une solution face à l'inflation parce qu'on a en face de cette inflation les resserrements monétaires. Le marché directeur, ce sont les taux longs américains.
Tout à fait.
Comment vous les voyez évoluer à l'avenir, ces taux longs américains?
En fait, le vrai leader du marché, c'est même pas la banque centrale. Le vrai leader du marché aujourd'hui, ce sont les actions des gouvernements. On a aujourd'hui des comptes publics qui, dans le monde entier, sont extrêmement déséquilibrés. Pour rétablir cet équilibre, il y a trois solutions. Soit on baisse drastiquement les dépenses publiques et on n'en prend pas la direction. Soit on augmente énormément les impôts. Et là non plus, on n'en prend pas la direction. La troisième solution, c'est la solution par défaut, c'est laisser filer l'inflation. Donc il faut se poser, la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les banquiers centraux sont durablement devenus orthodoxes ou pas? S'ils deviennent durablement orthodoxes, il n'y a plus besoin de refuge contre l'inflation. Donc effectivement, le Bitcoin va rester déprimé pendant assez longtemps. Soit en fait, l'action des banques centrales n'est pas soutenable, parce qu'elle peut induire effectivement une diminution de l'activité extrêmement dommageable aussi aux comptes publics, donc aggraver encore la situation des comptes publics. Et auquel cas, on se retrouvera devant la situation qu'on a eue en 2020, ça veut dire une forte baisse du Bitcoin, suivie d'un rebond des actifs risqués en général, et du Bitcoin en particulier, qui seront très très appuyés. Donc moi, pour ma part, je pense qu'en fait, les banques centrales n'arriveront pas véritablement à lutter contre l'inflation, parce que l'inflation, c'est la soupape de sécurité qui vient réajuster les prix quand les équilibres des comptes publics n'est pas réalisé.
Et donc, vous pensez qu'on aura un fort ralentissement du fait des hausses de taux actuelles, mais une poursuite de l'inflation sur des niveaux supérieurs à ce qu'elle était avant la crise Covid et avant la guerre en Ukraine.
Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que, vous savez, si vous regardez la mission de la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale Européenne, elle n'a qu'une seule mission, c'est la stabilité des prix. La stabilité des prix, ça veut dire quoi ? Ça veut dire inflation zéro. Ça ne veut pas dire une maîtrise de l'inflation. Une stabilité des prix, c'est l'inflation zéro. Puis un jour, on s'est dit que c'était un peu trop difficile. Donc on a mis inflation 2%. Dans quelques mois ou dans quelques années, on nous dira 2%, c'est trop difficile. On va aller vers 4 ou 5%.
Et donc, votre scénario, c'est qu'on aura une poursuite de l'inflation, alors pas 8-9% comme aujourd'hui, mais 3, 4, 5, en tout cas plus qu'avant, et moins de resserrement monétaire. Et dans ce cas-là, moins de resserrement monétaire qu'actuellement, mais une inflation supérieure à ce qu'elle était il y a 2 ans, dans ce cas, ce serait plus favorable aux cryptos. Ce serait la fin de l'hiver crypto.
Tout à fait. Je pense que non seulement ce serait la fin de l'hiver crypto, mais c'est effectivement quelque chose qui ne serait pas forcément défavorable au marché, en général. Et c'est d'habitude ce qu'on voit. Quand il y a une résurgence de l'inflation, il y a toujours une défiance au début, et ensuite, c'est souvent des périodes qui sont assez favorables aux actifs risqués.
Bon, donc vous maintenez votre exposition aux cryptos, vous proposez chez Tobam plusieurs fonds crypto, pas de souci là-dessus. Évidemment, on imagine que les performances ne sont pas au top en ce moment, vous dites que c'est un mauvais moment à passer.
Si on regarde les performances court terme, effectivement, elles ne sont pas géniales. Si on les regarde sur 3 ans ou 5, sur 5 ans, c'est déjà beaucoup mieux. La première mission de Tobam, c'est d'offrir de la diversification et la crypto restera diversifiante par rapport aux autres actifs risqués. Effectivement, elle n'est pas diversifiante par rapport à un actif sans risque, mais ça par définition. On ne va pas arriver à se diversifier par rapport à l'actif sans risque.
Bon, pour mesurer le potentiel du marché crypto, encore faut-il quand même le remettre à sa juste taille. On en parle beaucoup et les cryptos se font énormément critiquer, particulièrement en ce moment où il y a beaucoup d'affaires et de scandales. Enfin, c'est quoi le poids réel des cryptos aujourd'hui? Si on peut comparer les choses et mesurer surtout leur échelle.
Écoutez, la capitalisation boursière des cryptos en général, toutes prises ensemble, c'est à peu près 800 milliards d'euros. Ok, 800 milliards d'euros, c'est 20% des GAFAM, c'est 5% du S&P. C'est 1,5% des actions au niveau mondial. Donc en fait, les cryptos, c'est très exactement égal à 3 fois rien. C'est quelque chose qui est complètement émergent. Et c'est vrai qu'on en parle énormément, alors que leur importance économique, quand on parle du danger que fait courir la crypto à l'économie mondiale, bon, c'est une vaste blague, parce qu'effectivement, c'est pour l'instant quelque chose qui est extrêmement contenu et de taille tout à fait raisonnable. Pourquoi on en parle tellement? Parce qu'en fait, la crypto, c'est quelque chose qui est une innovation disruptive. C'est quoi une innovation disruptive? C'est une innovation qui peut changer le monde. Et dès lors qu'on a affaire à une innovation disruptive, il s'enclenche systématiquement un cycle qu'on appelle techniquement le cycle de Kubler-Ross, qui est un cycle qui est comparable au cycle du deuil. Quand on est frappé par un deuil, on passe par plusieurs états. D'abord la stupeur, le choc, la colère. On est en colère contre ce gars qui n'a pas respecté le feu rouge, contre le bon Dieu. Ensuite, on finit par déprimer. Puis après, on essaye de vivre avec. Puis après, on arrive à vivre avec. Et en fait, quand vous avez une innovation disruptive, vous devez faire votre deuil du monde d'avant. Et donc, on passe par les cycles du deuil. Okay, le monde d'avant, il avait des qualités, il était connu et il fonctionnait. Et chaque fois que vous avez une innovation disruptive, quand il y a eu le train, on a lutté contre le train, on était très en colère contre le train. Quand il y a eu l'eau courante, on a lutté contre l'eau courante. L'informatique, on a lutté contre. L'électricité, on a lutté contre. Et là, il y a toute une frange de conservatisme qui, après tout, était attachée au monde d'avant, qui vont se mettre en colère contre ce deuil qu'apporte l'innovation disruptive. Mmh. Les quatre agents de la critique, c'est très souvent la passion et l'idéologie. La notion de bien et de mal. Alors qu'on est en train de parler d'un outil, d'un outil, il faut s'intéresser à est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il marche pas.
Oui.
Pas au bien et au mal.
Mais pour l'investisseur, c'est du risque quand même. La crypto, c'est super risqué. C'est peut-être le principal reproche. Plus que le risque pour la macroéconomie, le risque pour les investisseurs.
Investisseur, c'est très exactement prendre des risques. Alors c'est effectivement la crypto, le risque de la crypto des autres risques, c'est un risque très important. Mais c'est pas quelque chose qui est structurant. Si quelque chose est 10 fois trop risqué pour vous, vous en achetez 10 fois moins. Y a une chose qu'on n'a pas le droit de dire, rationnellement parlant, c'est la phrase qu'on n'a pas le droit de dire, c'est trop risqué pour moi. Si quelque chose est 10 fois trop risqué pour vous, vous en achetez 10 fois moins. J'ai eu la chance d'être interviewé par la commission des finances à l'Assemblée nationale il y a quelque temps, et le rapporteur m'avait posé la question, mais quand même, le bitcoin c'est très risqué, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui ai répondu, le bitcoin c'est comme le chlore. Le chlore, c'est un gaz de combat. Hein, c'est très, très risqué. Mais si vous mettez 3 gouttes de chlore dans un verre d'eau, ben vous aurez de l'eau potable. Et c'est la même chose, le bitcoin. Si vous mettez 40% de votre portefeuille en bitcoin, ben effectivement, c'est très dangereux, c'est très risqué. Mais si vous mettez à peu près 2-3% de votre portefeuille de bitcoin dans votre portefeuille, vous allez réduire le risque de votre portefeuille grâce à l'effet diversifiant.
Oui, enfin, je vous parle crypto, vous me répondez bitcoin. Parce qu'il y a en effet des promesses spécifiques à bitcoin. On attend encore de les voir se réaliser, ces promesses-là. Yves, quelles sont les grandes promesses de bitcoin dans lesquelles vous croyez toujours, même si pour l'instant, elles ne se généralisent pas, en tout cas, ces promesses. Elles ne se matérialisent pas complètement partout, c'est le moins qu'on puisse dire.
On a commencé cette émission en parlant de l'inflation. Hein, le premier bloc du bitcoin, hein, quand il a été miné, le 3 janvier 2009, ce bloc faisait référence à la page de garde, enfin la première page du Financial Times, qui parlait justement du fait que la banque centrale anglaise allait émettre massivement de la monnaie pour essayer de sauver le secteur bancaire. Et ça, Satoshi nous envoie un message, il nous dit que dès lors qu'on commence à faire ça, dès lors qu'on met en route la planche à billets, on va avoir de l'inflation et c'est très difficile à arrêter, hein, parce que la planche à billets, c'est un peu comme une drogue. Hein, c'est du confort, c'est une drogue, et après on arrive à plus à se passer de cette drogue. Plus on en prend, moins on est athlétique, hein, et moins on est athlétique, plus on en prend. Hein, c'est un cercle vicieux. Et c'est en réponse à cette menace que Satoshi a inventé le Bitcoin. C'est quoi la proposition de valeur du Bitcoin ? La proposition de valeur du Bitcoin, elle est très simple, elle tient en une phrase. Il y en a 21 millions.
C'est la rareté.
Voilà. Hein, Satoshi Nakamoto a créé la blockchain, la technologie de la blockchain, avec une seule finalité, s'assurer que cette phrase ne devienne jamais fausse. Hein, c'est la seule proposition de valeur du Bitcoin. Hein, c'est quelque chose qui est définitivement rare. Hein, l'histoire de la monnaie...
Le protocole, la blockchain, grave ça, cette promesse dans le marbre.
Voilà, ouais. Tout à fait. Elle est gravée pour l'éternité, elle n'est pas modifiable. Hein, c'est quelque chose qui est en nombre fini.
C'est l'étape de la loi, là.
Oui. Voilà, tout à fait. Et c'est une loi, effectivement, qu'on ne pourra pas modifier, oui. Parce que pour la modifier, il faudra avoir un consensus absolu et pas une majorité.
Oui.
Hein, et ce consensus, il suffira qu'un serveur dise non pour ne pas qu'il soit modifié.
Et donc, cette blockchain, ce protocole, rend l'arbitraire impossible sur Bitcoin, alors que les banquiers centraux font, eux, à peu près ce qu'ils veulent. C'est ça l'idée.
Tout à fait.
Bon, ben voilà la promesse de valeur de Bitcoin. On verra si l'avenir donne raison à ceux qui y investissent. On rappelle, et vous le disiez parfaitement, c'est bien sûr de la diversification. Lilian, c'est au cœur de votre stratégie patrimoniale, le Bitcoin. Non, mais qu'est-ce que... Non, et on ne parle pas de vie privée ici. Mais voilà, comment est-ce que vous appropriez le propos d'Yves à l'instant? Vous nourrissez d'ailleurs beaucoup des propos d'Yves qu'on voit régulièrement dans les médias crypto également, qui est une source d'inspiration, et c'est vrai qui est relativement passionnant. Comment est-ce que vous réagissez à ce qu'il vient de nous expliquer?
Bon, c'est vrai que c'est assez intéressant cette stratégie, comme il expliquait, de réduire en fait son exposition à Bitcoin. En effet, quand on est exposé à 50% aux cryptos dans son portefeuille, on prend beaucoup plus de risques quand on est exposé à seulement 2%. Et nécessairement, quand on est exposé que à 2%, eh bien, au contraire, finalement, on réduit le risque de son portefeuille puisqu'on se diversifie. Ça, je trouve ça très intéressant. Après, c'est vrai que... dans la jeune génération, on va dire, les jeunes investisseurs dans les cryptos n'ont pas nécessairement ce recul-là, cette sagesse, on va dire, sur la constitution de leur portefeuille. Et il est plus fréquent de voir des jeunes avoir des portefeuilles beaucoup plus exposés aux cryptos. Mais c'est vrai qu'il faudrait justement prendre l'expérience de ceux qui ont justement plus d'expérience justement dans le domaine. Et s'en inspirer.
Oui, et puis il y a des bonnes pratiques dans la finance traditionnelle qui peuvent s'appliquer aussi aux cryptos, Yves.
Tu dis quelque chose de très intéressant, hein, si tu différencies les jeunes, les populations jeunes, des populations comme moi, beaucoup plus âgées. En fait, le principal patrimoine du jeune, c'est quoi ? C'est précisément sa jeunesse. Hein ? Et donc, avoir un patrimoine qui est faible, qui est très très exposé à la crypto, ça vient diversifier quelque part son patrimoine global, qui est essentiellement constitué de sa jeunesse, hein, de son avenir professionnel, de son éducation à avoir, etc. Donc on peut comprendre que quelqu'un d'âge jeune ait une exposition plus risquée, hein, que quelqu'un qui va effectivement utiliser son patrimoine financier pour vivre. Le jeune, il ne va pas utiliser son patrimoine financier pour vivre.
Il y a un adage sur les marchés. Les jeunes font leur expérience avec leur argent. Les plus âgés font de l'argent avec leur expérience. Voilà. C'est à peu près ça. Tout est résumé.
Tout à fait résumé.
Voilà. Lilian, l'hiver crypto, en tout cas, n'en finit pas. On a un bitcoin toujours autour des 19-20 000 $. Mais dans la vraie vie, si les cryptos traversent l'hiver, dans la vraie vie, c'est pleine chaleur, la canicule un peu partout, en Europe et aux États-Unis, au Texas. Alors, vous allez me dire pourquoi on parle de canicule dans le club BFM Crypto. Eh bien, parce que la météo impacte aussi le bitcoin. Là-bas, au Texas, les fermes de minage de bitcoin sont, du fait de cette canicule, à l'arrêt.
Actuellement, en effet, au Texas, on a une forte période de canicule avec des températures qui peuvent facilement dépasser les 40 degrés. Et donc, nécessairement, avec un réseau électrique qui est assez fragile, on risque des coupures d'électricité pour surconsommation et donc des conséquences qui pourraient être assez dramatiques. Donc, les exploitants des réseaux électriques du Texas ont demandé aux entreprises de limiter leur activité, voire même de stopper leur activité. Et justement, les grosses fermes de minage de Bitcoin au Texas ont complètement stoppé leur activité pour répondre à cette demande. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça a permis quand même de baisser d'à peu près 1% la consommation énergétique, enfin d'électricité du réseau du Texas. Donc c'est assez important, mais il faut rappeler tout de même que le Texas représente 11% du hash rate total de Bitcoin, donc c'est-à-dire de l'électricité qui est mise à disposition pour le fonctionnement du réseau Bitcoin finalement. Donc c'est assez important. Et donc oui, en effet, à l'heure actuelle, toutes les fermes de minage de Bitcoin au Texas sont fermées. Alors vous allez me dire, est-ce qu'ils font ça par pur altruisme ? Non, bien évidemment, il y a une compensation financière derrière qui est fournie par les exploitants justement de ce réseau électrique. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que cette activité, elle est assez flexible. On peut assez facilement éteindre une ferme de minage en appuyant sur un interrupteur finalement par rapport à d'autres secteurs d'activité qui sont beaucoup moins flexibles. Et puis c'est aussi très intéressant pour eux parce que à l'heure actuelle, donc si on va vers une crise, on va dire, de l'électricité là-bas, le prix risque d'augmenter. Donc ça va coûter plus cher de miner du Bitcoin. Et on a un Bitcoin qui a quand même un prix relativement bas en ce moment. Donc la marge est très faible. Donc ça pourrait leur coûter presque plus cher de produire du Bitcoin que de le revendre derrière. Donc ils ont préféré fermer les fermes et puis attendre que la canicule passe pour réouvrir leur...
Mais du coup, moins de mineurs au Texas, le hash rate dépendant du Texas est 11% du hash rate total du Bitcoin, ça aura un impact sur le Bitcoin du coup, sur sa production, sur son cours, enfin,
alors ça aura un impact sur la difficulté de minage de Bitcoin. En fait, cette difficulté de minage, elle est calculée à peu près toutes les deux semaines, tous les 2000 blocs environ. Et donc, nécessairement, donc lors du prochain calcul de cette difficulté de minage, on va la voir diminuer. Donc, ça va peut-être inciter certaines personnes qui avaient fermé leur centre de minage de les réouvrir à la rigueur. Après, quant au prix du Bitcoin, est-ce que ça va l'impacter ? Parfois, on peut dire que lorsque la difficulté de minage diminue, le prix du Bitcoin peut augmenter. En réalité, je pense que ça ne va pas changer grand-chose au vu surtout du contexte macroéconomique actuel et dont vous avez parlé au tout début de cette émission.
Bon, la canicule au Texas qui a donc un impact sur le minage de Bitcoin, la canicule en Europe, elle, n'a aucun impact. Il n'y a pas de mineurs en Europe, Lilian.
Il y a des mineurs en Europe, non, mais en tout cas, ça n'a pas d'impact significatif.
Bon, moins de mineurs en Europe, on va dire, mais des idées, des projets, un écosystème qui, dans le Web 3, est l'un des plus agiles au monde, y compris chez nous en France. Et là, Cocorico, une start-up française, annonce la plus grosse levée de fonds pour une start-up étudiante, malgré l'hiver crypto. Oui, les acteurs français continuent d'ouvrir la voie, Lilian.
Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on est on peut le dire, en plein bear market, et pourtant des entreprises continuent à réussir à lever des fonds. Et c'est le cas de Morpholabs, qui a levé 18 millions de dollars auprès de nombreux fonds d'investissement bien connus de l'écosystème des cryptos. Et ce qui est justement très intéressant, c'est que Morpholabs, eh bien, c'est une start-up française et ça correspond à la plus grosse levée de fonds de l'histoire des start-up étudiantes, devant même Facebook en 2005. Donc c'est quand même assez intéressant pour être souligné.
Le symbole est magnifique.
Et tout à fait. Et Morpho, alors concrètement, Morpho, c'est un protocole qui vient se placer en surcouche des applications de lending décentralisées, comme Aave et Compound, par exemple. Si vous utilisez ces applications, vous allez vous rendre compte qu'il y a des différences entre les taux des prêteurs et les taux des emprunteurs, parce qu'il y a beaucoup plus de prêteurs qu'il n'y a d'emprunteurs. Et donc, l'idée de Morpho, c'est tout simplement de venir homogénéiser ça avec un algorithme qui va finalement mettre en relation un prêteur et un emprunteur directement, comme un réseau pair à pair finalement. Donc c'est un protocole qui est très prometteur et très innovant.
Oui, alors que le secteur du lending semblait en crise, on voit que c'est pas le cas de tous les acteurs.
Alors, il faut vraiment
séparer le bon grain de livret, voilà, faire la distinction entre la DeFi, la finance décentralisée, et la CeFi, la finance centralisée.
Exactement,
en crypto.
Il faut différencier. Donc oui, la DeFi, la finance centralisée, et la CDeFi ou CeFi qui correspond à Centralized Decentralized Finance. Et donc notamment, par exemple, Celsius dont on parlait encore il y a pas longtemps sur ce plateau, qui est une plateforme qui permet à des clients d'investir dans la DeFi, mais de manière centralisée. C'est eux finalement qui gèrent les fonds et ils ont la possibilité à tout moment de couper les retraits, de couper les transferts. C'est ce qu'on a vu avec Celsius. Dans la DeFi, vous n'avez pas tout ça. Si vous avez placé vos fonds, vous pouvez les retirer à tout moment. Et justement, Morpho fait partie de cette catégorie-là. C'est un protocole de DeFi. Donc,
Bon, Yves, vous écoutiez attentivement Lilian à l'instant. On voit donc cette plus importante levée de fonds pour une start-up étudiante de l'histoire de l'humanité quand même, devant Facebook. C'est peut-être pas coté en bourse encore Morphos, mais voilà, ça peut apporter des idées pour vos fonds même, des idées d'investissement. Vous vous dites, en tout cas, l'écosystème continue de grandir.
Ah oui, c'est tout une à bonne fait. Nouvelle. Tobam a lancé son fonds de finances décentralisées l'année dernière. On a vraiment bâti une thèse d'investissement sur la finance décentralisée. Quand cette thèse nous paraissait bien définie, on a lancé le fonds. Et effectivement, on arrive à bien le commercialiser, principalement aux États-Unis et au Canada, et auprès de certains single families en Europe. Notre thèse d'investissement sur la DeFi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de richesses qui s'est accumulée dans le monde de la crypto et que dès que vous avez une accumulation de richesses, il y a besoin de services. C'est quoi le métier de banquier? Le banquier, il ne vous prête pas de richesses. Le banquier, il vous prête de la liquidité. Il va prendre quelqu'un qui est déjà riche, soit qui est riche de son contrat de travail, soit qui est riche de son usine, quelqu'un qui a une usine qui vaut 100 millions, on va lui prêter 10 millions d'euros pour qu'il achète des machines-outils supplémentaires. Donc en fait, le métier de banquier, c'est de prêter de la liquidité à quelqu'un qui a déjà un patrimoine. Et en fait, ce métier, c'est un besoin de l'économie, c'est un métier qui n'était pas exercé par les acteurs traditionnels dans le monde de la crypto. La nature a horreur du vide. Dès qu'il y a un vide, il est comblé par des initiatives. Et c'est ça qui explique en fait le secret de la DeFi. Donc nous, on a lancé effectivement deux types de fonds. On a lancé des fonds, une offre qui achète des jetons du monde de la DeFi. Et on a lancé un fonds qui effectivement prête de la liquidité à des gens qui donnent en collatéral un patrimoine en crypto.
Ok. Bon, et ça fait combien de temps que ce fonds existe?
Alors le fonds l'offre jeton, elle doit exister depuis à peu près 18 mois.
D'accord.
Et le fonds DeFi, c'était un mandat qui a été transformé en fonds. La transformation en fonds doit dater d'il y a à peu près 6 mois.
Et ça se commercialise plus facilement en Amérique du Nord qu'en Europe?
Oui, tout à fait.
Pour des questions réglementaires,
mentalité. C'est
uniquement
quelque chose qu'on ne vend qu'à des institutionnels.
D'accord.
C'est clair qu'aux États-Unis, on en est vraiment à une diffusion assez large au niveau institutionnel. Je ne connais pas beaucoup d'institutionnels qui disent « j'ai pas du tout de crypto ». Ils en ont soit indirectement à travers des boîtes non cotées, qui deviennent ensuite des boîtes cotées, soit ils en ont directement. Mais les institutionnels américains sont très pragmatiques là-dessus. Ils se posent la question « est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas ?» Ça a l'air de marcher. Donc, je vais essayer d'en tirer avantage. On ne se pose pas la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que ça plaît à Christine Lagarde ou est-ce que ça ne plaît pas à Christine Lagarde. Là-bas, ce n'est pas un grand gourou financier très suivi.
Alors, on imagine qu'il regarde aussi les failles qui persistent malgré tout dans cet écosystème. Une faille de sécurité, par exemple. Dernier épisode, Lilian, vous l'avez repéré, les utilisateurs d'Uniswap ont été victimes récemment de phishing, des millions de dollars de crypto dérobés.
Tout à fait, ouais. Donc l'échange décentralisé Uniswap, qui permet tout simplement d'échanger des tokens sur notamment la blockchain Ethereum, a été l'objet d'une attaque de type hameçonnage. Donc c'était les fournisseurs de liquidités sur le protocole qui ont été visés, leurs adresses ont été exportées et on leur a envoyé des faux tokens, en fait sous la forme d'un airdrop finalement. Et ils ont réussi comme ça, les attaquants, à récupérer à peu près 8 millions de dollars de TH qui ont évidemment tout de suite été transférés vers le mixeur Tornado Cash et blanchi derrière, bien entendu. Et c'était une attaque qui était quand même assez bien ficelée. Ils ont utilisé plusieurs procédés pour la rendre très crédible, notamment déjà changer l'appellation de leur adresse sur Etherscan, donc l'explorateur de blocs qui permet d'observer toutes les transactions sur la blockchain Ethereum. Finalement, les gens ont reçu un token non pas d'une adresse un peu obscure, mais d'une appellation de type Uniswap V3 avec quelque chose derrière. Donc, qui rendait la chose beaucoup plus légitime. Et puis, lorsqu'on cliquait sur le lien, on était redirigé vers un site internet assez proche du site d'Uniswap, avec un nom de domaine, bien sûr, proche aussi de celui-là, un système de communication similaire, donc qui était très crédible, en tout cas, pour ceux qui se sont fait avoir. Et donc, évidemment, on profite de ça, parce que c'est vrai que c'est pas la plus grosse attaque qu'il y a eu dans la DeFi, hein, loin de là. Mais on en profite quand même pour rappeler qu'il faut toujours rester vigilant, prudent, et surtout dans le cas comme ça d'airdrop, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est quelque chose de vrai? Est-ce que je suis sur un vrai site, un site légitime? Peut-être même regarder les réseaux sociaux des protocoles pour vérifier s'ils en ont parlé ou pas.
C'est ça, parce que quand ils en font un, ils le font savoir.
Souvent, ils le font savoir, en effet. Et donc, voilà. Et puis en plus, conserver ces cryptos dans des portefeuilles froids, c'est la meilleure solution, en tout cas, pour ne pas s'exposer à ce genre de risque.
Toute l'expertise, la jeunesse et l'expérience, la sagesse de nos experts du Club BFM Crypto. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Lilian Aliaga, rédacteur pour Cryptost. Yves Chouefati, le président de Tobam, à nos côtés aujourd'hui. Merci messieurs, bel été. Bon retour. Dans